Ça va, je connais tout le monde. Voilà. Alors, j'ai prêché la dernière fois au mois de mai sur l'amour mutuel entre chrétiens. Et ça se terminait par l'idée que l'Église est l'invention de Jésus pour révéler au monde l'amour de Dieu. Donc, on est appelé à s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Donc, l'Église devrait être un avant-goût du paradis sur la terre. Et les nouveaux convertis ont parfois ce genre d'illusion. Mais il ne leur faut souvent pas trop longtemps pour s'apercevoir que l'Église est loin d'être parfaite. Oui, la vie d'Église n'est pas toujours facile. On a le sentiment d'un décalage entre notre réalité et ce que nous lisons dans la Bible. Parce que nous nous heurtons au caractère des uns des autres, nous vivons des déceptions. Alors l'Église ne nous paraît soudain plus si attirante ni si intéressante. Et parfois, on y vit de vraies souffrances. Des fois, on se dit, ah, on aimerait vivre à l'époque des premiers chrétiens, les vrais, quoi. Et pourtant, de nombreuses exhortations dans les épîtres du Nouveau Testament nous montrent que les choses n'étaient pas si simples dans les premières églises non plus. Vers la fin des lettres de Paul, après les développements théologiques, on trouve ainsi des listes de recommandations pratiques qui montrent aux chrétiens comment vivre concrètement leur vocation. Alors pour une fois, j'ai choisi une de ces listes pour que nous la méditions ensemble. Mais d'abord, on va revenir à la parabole de la roue de vélo. Donc c'est la troisième fois en un an que je vous apporte cette roue. Elle sert à rien d'autre en fait. Elle est complètement au rebut à part ça. Donc la première fois que je l'avais amenée, c'était il y a presque un an. C'était pour dire que la vie d'église, ça fonctionne si tout le monde est, si tous les rayons sont vers le centre. Donc les rayons, c'est nous, et le centre, ah oui, merci, c'est gentil. Le rayon, c'est Jésus, le centre, c'est Jésus, et donc tous les rayons convergent vers le centre. Et puis après ça, quelqu'un m'a fait la remarque, mais tu sais, c'est pas tout. Pour qu'une roue de vélo fonctionne, il faut aussi que les rayons se touchent. Et effectivement, j'ai vu les rayons se touchent. Il faut que les rayons se touchent pour qu'il y ait une bonne cohésion et que la roue soit solide. Donc ça veut dire une communion fraternelle entre les uns et les autres. Et puis quelqu'un d'autre m'a encore fait une autre remarque après, en me disant, mais tu sais, il faut encore autre chose. Il faut que chaque rayon soit bien réglé. Parce que s'il y a des rayons mal réglés, la roue, elle est un peu tordue, ça va pas trop bien et voilà, on roule pas trop bien, quoi. Voilà. Donc ça m'a bien parlé, merci. Ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, bah oui, dans notre vie d'église, on a aussi besoin, pas seulement d'être ensemble, pas seulement d'être tourné vers Jésus, mais aussi d'être réglé, d'être sanctifié en langage chrétien. Il faut que Dieu travaille nos vies, nos cœurs pour qu'on soit orienté vers lui, qu'on se corrige, qu'on change nos caractères, qu'on change les choses qui ne vont pas en nous. Je crois que je me suis fait comprendre. La différence entre nous et un rayon de roue de vélo, c'est que la roue du vélo, c'est le réparateur qui s'en occupe, les rayons, ils n'ont rien à faire. Dans notre cas, c'est différent. Dieu s'occupe de nous, mais il a besoin aussi de notre collaboration. Et donc, nous avons une responsabilité personnelle là-dedans. Il faut tout de suite préciser que le seul rayon sur lequel je peux avoir un impact, c'est moi, c'est pas le voisin. Les textes qui sont là sont pas là pour dire ah oui, ça c'est bien pour un tel, ça me fait penser à lui ou à elle. Non, non, c'est à nous qu'il faut penser, pas au voisin. Donc je disais, le seul rayon sur lequel je peux agir, c'est moi-même, et encore, sur la partie de mon être intérieur dont j'ai conscience. Parce qu'il y a toute la partie inconsciente qui nous fait. Qui travaille beaucoup en nous et à laquelle on n'a pas accès. Mais heureusement, Dieu y a accès et œuvre aussi dans notre inconscient. Donc le passage que nous allons lire se trouve après tout un développement que Paul fait sur l'unité de l'Église et les différents ministères. Donc on va lire ce texte, il est très long, mais vous verrez, très facile à comprendre. Éphésiens 4, du verset 17 à Éphésiens 5, verset 17. Donc c'est en fait c'est un chapitre entier, mais qui est à cheval sur deux chapitres. Voilà. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux,
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Donc on va mettre le titre de cette prédication. Donc je l'ai appelé « Pour des paroles de vie ». Donc je disais, ce passage, il vient juste après tout un développement où Paul explique que l'Église est unie parce qu'on est enfant de Dieu et qu'on est, racheté par le sang de Jésus. Dans le texte qu'on a lu, c'est aussi mentionné que, c'est dit quoi, que c'est vraiment Jésus qui nous a sauvés par son sang, par sa vie. Et c'est vraiment la chose importante à comprendre avant de commencer, parce que sinon on peut lire ce texte d'une façon très moralisatrice et dire « Ah oui, quand on est chrétien, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Tu sais, ce n'est pas bien ce que tu fais parce que dans la Bible, c'est écrit blabla. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le lire. » C'est vraiment ce qu'on a lu dans ce texte, c'est des exhortations pour nous montrer le bon chemin,
comme une conséquence de la vie de Dieu en nous. Et donc, si on n'a pas commencé par donner sa vie à Jésus, par vouloir le suivre, par vouloir marcher avec lui, toutes ces recommandations, elles ne servent pas à grand-chose, en fait. C'est pas un catalogue de bien et de mal. C'est plutôt, qu'est-ce que Dieu est en train de faire en nous ? Donc, voilà. Donc, la dia suivante, alors. Dans ce texte, on voit des contrastes entre ce qui se passait avant notre conversion et ce qui se passe après. Et Paul utilise l'image des ténèbres et de la lumière. Donc il y a des passages où il dit, ceux qui ne croient pas en Jésus, ils sont dans les ténèbres, ils ont la pensée obscurcie, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Maintenant vous êtes dans la lumière, vous avez compris, alors ne vivez plus comme vous viviez autrefois. Donc il cite, vous avez vu, hein, il cite un certain nombre de péchés, de choses qu'il ne faut pas faire, en proposant autre chose à faire. Et j'ai relevé trois grands thèmes. Voilà, donc là, on passe à la diapositive 3. Je ne les ai pas pris du tout dans l'ordre du texte, hein, parce que vous comprendrez après. Donc, il y a trois grands thèmes. Donc, il y a l'immoralité sexuelle, le rapport à l'argent et les paroles. Alors, on va commencer par l'immoralité. En grec, c'est « porneia ». L'immoralité, ou inconduite selon les traductions, recouvre toutes sortes de pratiques sexuelles vécues hors du cadre d'un engagement réciproque, concrétisé en principe par le mariage. Notre société, imprégnée de pensées libérales concernant la société, de la sexualité, ressemble en cela à la société grecque. Mais Paul nous dit que ces choses n'ont pas leur place dans l'Église, qu'il n'en est même pas question, parce que ce sont des péchés qui incluent le corps, et peuvent par là avoir des conséquences profondes sur notre intégrité psychique et spirituelle. Aujourd'hui, on peut ajouter dans cette catégorie tout ce qui touche à la pornographie. Et Paul dit que même faire des blagues, hein, c'est une habitude très française, ça, les blagues grivoises, ben c'est dénoncé par Paul. Chez les chrétiens, ça ne se fait pas. Voilà. Donc juste ça. Je n'ai pas besoin de faire un dessin long, ce n'est pas le sujet de la prédication. On passe au deuxième. Le deuxième, c'est l'argent. Là, ça nous concerne déjà, je pense, un petit peu plus des fois. Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que la cupidité est mise au rang des pires perversions. La soif de posséder est qualifiée par Paul d'idolâtrie. Le désir d'entasser des richesses, comme l'immoralité, n'est jamais assouvi. Plus on en a, plus on en veut. Et c'est à cause de ça qu'on peut les qualifier d'idolâtrie. Pour être idolâtre, il n'y a pas besoin de statut. Les idoles, elles sont dans nos cœurs. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à échapper à cette fascination de l'argent, à le remettre à sa place. Sa place est d'être un outil, un serviteur, et pas un maître, pas un but dans la vie. Notre confiance est à placer en Dieu, non pas dans nos comptes en banque. Alors, comment arriver à ça ? La réponse est dans le verset 28, où on nous parle du travail. On nous dit « travailler ». Alors, nous, on pense travailler, bah oui, pour subvenir à mes besoins. Mais il dit non, travailler pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc, ce n'est même pas pour s'enrichir soi-même, c'est pour être capable de donner aux autres, pour ressembler à Dieu dans la générosité, dans le don. Mes revenus sont un cadeau que je reçois de Dieu, donc pour refléter aussi cette bonté de Dieu envers les autres. Cette ouverture nous détourne de notre ego, de nos peurs de manquer, et elle nous connecte à l'œuvre de Dieu dans le monde. Même avec de faibles revenus, je peux donner quelque chose. Et enfin, les paroles. C'est les choses qui prennent le plus de place dans le texte, et c'est ce domaine que je voudrais développer aujourd'hui. Parce que c'est aussi celui qui impacte le plus nos vies familiales et nos vies d'église. En effet, nous sommes des êtres de relation créés à l'image de Dieu. Dieu crée à travers la parole. Il se révèle à travers la parole écrite, la Bible. Nous vivons dans un univers de mots, de paroles échangées, rapportées, lues, écoutées à la radio, à la télé, n'importe. Des paroles tues aussi, des choses qu'on n'a pas dites. Et c'est à partir de cet univers langagier qu'un enfant se développe. Malheureusement, depuis l'entrée du péché dans le monde, le langage a été perverti, comme tout le reste de la création. Les mots qui devait nous instruire, nous motiver, nous réconforter, nous consoler, nous mettre en lien, peuvent maintenant aussi nous abattre, nous déprimer ou même nous détruire intérieurement. C'est donc dans ce domaine des paroles que le plus de dommages surviennent dans nos relations mutuelles. Alors maintenant, on peut mettre la dia 4. Donc, Dieu nous a donné la parole pour communiquer, mais le péché a obscurci nos relations et le langage a aussi été, donc je disais, perverti, obscurci. Combien d'incompréhensions sincères entre nous, hein. On explique un truc et l'autre y comprend tout autrement et c'est tout à fait sincère. On dit, mais t'as pas compris, mais je croyais que tu voulais dire ci ou ça. Hein. Il y a aussi la parole qu'on utilise comme un écran de fumée. On raconte plein de trucs juste pour pas parler de la chose importante. Alors, on ne dit pas des mensonges, on raconte des trucs, quoi, voilà, mais juste pour éviter de parler des sujets vraiment qui touchent, qui sont importants. Et puis, des fois, on cherche ces mots aussi. On n'arrive pas à vraiment faire comprendre, on cherche les mots, on se dit comment je vais expliquer telle ou telle chose. Je vais vous avouer que cette prédication, elle m'a fait transpirer. Hein. Jusqu'à hier soir, 11h30, j'étais dessus. Et toujours à chercher la meilleure formule, le meilleur mot, comment je vais dire ça. C'est tellement difficile d'arriver à transmettre une idée, une chose qu'on trouve importante. Il y a aussi la façon d'utiliser le langage pour se rendre intéressant. Hein, on parle pour raconter des trucs, juste pour qu'on s'occupe de nous, qu'on nous regarde, qu'on fasse attention à nous. Donc voilà, il y a toutes sortes de façons dont le langage peut être perverti. Et là, Paul nous parle d'une façon, d'un problème particulier qui est celui du mensonge. Le mensonge, il apparaît dès les premières pages de la Bible, dans la bouche du serpent, qui sème le doute sur les intentions bienveillantes de Dieu. D'ailleurs, Jésus appelle le diable le père du mensonge. Donc, comme enfants de la lumière, nous devons nous garder le plus possible du mensonge. Paul nous dit « débarrassez-vous du mensonge », comme de quelque chose qui nous encombrerait. Un peu plus loin, dans cette même équipe, Épître aux Éphésiens, il écrira « prenez la vérité pour ceinture ». La ceinture, c'est ce qui permettait aux hommes de tenir, non pas leurs pantalons à l'époque, mais les pans de leur tunique relevés sur les hanches pour être à l'aise, pour travailler ou pour courir. La vérité nous met à l'aise. Si je n'ai rien à cacher, je n'ai pas besoin de surveiller mes paroles. Je peux être en confiance avec mon prochain. Mais souvent dans la vie, les choses sont bien plus compliquées que ça. Alors peut-être vous vous dites, « Oh mais moi, je mens jamais, moi. Moi, je dis toujours la vérité. » Ben vous allez voir, c'est pas si simple. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a du mensonge? Pourquoi on ment? Alors je mets tout de suite de côté le mensonge vraiment malveillant qui consiste à tromper l'autre parce qu'on lui veut vraiment du mal, qu'on en veut à son argent, donc toutes les arnaques de toutes sortes. Hein. Voilà, donc on parle même pas de ça parce que ça non plus, ça devrait pas exister dans l'Église. Hein. Bon. Il y a aussi le mensonge, on va dire, maladif, la mythomanie, les gens qui racontent des trucs pas du tout vrais parce qu'ils croient qu'eux, ils croient que c'est vrai, mais c'est faux, voilà, bon, on n'en parle pas non plus. Après, je pense à deux grandes catégories de mensonges qui sont les plus courants. Voilà. On ment pour protéger l'autre. Non, on ment d'abord. C'est l'autre... L'autre diapo avant. Ouais. Ouais, mais je crois qu'il doit manquer une dia, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Alors, on ment pour cacher quelque chose, parce qu'on a honte. On veut cacher une désobéissance. L'ado qui dit « Oui, oui, je suis rentré à 11h hier soir. » En réalité, il est rentré à 2h du matin. Ou alors, on veut cacher une souffrance. On n'a pas envie que les autres savent que j'ai un cancer ou une addiction. Je regarde des vidéos porno. Ou je veux me protéger du commentaire des autres. Je n'ai pas confiance. Si je dis ma faiblesse, si je dis ce qui se passe en moi, oula, qu'est-ce que les autres vont en faire? On n'a pas confiance dans les autres. Donc on va taire des choses. Vous savez, le mensonge, il y a deux façons de mentir. Il y a ce qu'on appelle le mensonge par commission, donc commettre un mensonge, dire quelque chose de faux. Ou alors, mentir par omission, ça veut dire on ne dit juste pas quelque chose, on le cache, et en fait, ben, c'est comme si on mentait, parce qu'on vit dans la relation avec l'autre, avec un gros truc entre qu'on n'a pas dit. Donc c'est aussi une forme de mensonge. Et quand on cache un péché ou une souffrance, ça nous ronge. Ça brouille notre relation avec Dieu, avec les autres. Ça nous empêche de dormir, quelquefois ça nous angoisse. Il faut absolument en parler. Il faut revenir à Dieu. Il faut demander pardon. Peut-être prier avec quelqu'un pour se décharger de son fardeau. Et c'est là que les problèmes commencent. On peut se dire, bon, allez, je vais parler de ça à mon groupe de maison. Alors on se décharge, on demande pardon, on prie. Et 2 semaines plus tard, quelqu'un de l'église qui ne fait pas partie du groupe de maison te demande, au fait, ça va mieux ton problème avec l'alcool ? Vous imaginez la réaction ? Bah, puisque c'est comme ça, je ne raconterai plus jamais rien à personne dans ce groupe de maison. Alors l'autre pourrait dire, mais pourquoi ça me choque ? Pourquoi ça te choque ? C'était bien la vérité pourtant. Bah oui, mais ce n'est pas parce qu'une chose est vraie qu'elle a besoin d'être publiée partout. Le psaume 34, verset 14, dit que celui qui veut voir des jours heureux se garde de médire et se garde de mentir. Alors le mot médire, on le confond parfois avec la calomnie. La calomnie, c'est de raconter des choses fausses sur quelqu'un. Hein, c'est de dire des choses mauvaises, mais fausses sur quelqu'un. Alors que médire, ça peut être dire des choses mauvaises, mais vraies sur quelqu'un. Celui-là, il a vraiment un sale caractère. Hein. Bah oui, c'est vrai, il a un sale caractère. Mais ce n'est pas une raison pour le dire partout. Vous voyez, c'est ça, médire. C'est blablater sur les autres, critiquer, etc. Voilà, juste critiquer une personne parce qu'elle fait ou dit des choses qui ne me plaisent pas. Alors là, je pense qu'on a tous à balayer devant notre porte. C'est tellement vite fait d'émettre un jugement ou de donner une opinion comme ça. Éphésiens 4, 15, juste un peu avant dans le texte, nous disait « En disant la vérité avec amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. » La vérité, s'il n'y a pas l'amour avec, ça ne vaut pas grand-chose. La vérité, ça peut être très dur. Vous savez, en français, il y a l'expression « dire ses 4 vérités à quelqu'un ». Bon, en général, quand on dit ces 4 vérités à quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire des compliments. C'est pour lui faire tous les reproches, lui dire « oui, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça ». Et ça ne fait pas du bien, ce n'est pas constructif. Donc, il ne s'agit pas de dire les choses. Il ne faut pas forcément dire les choses juste parce qu'elles sont vraies, ça ne suffit pas. Il faut aussi les dire avec amour et avec discernement. Dans l'Église, on a besoin de se sentir en sécurité. Si on confie quelque chose de sensible à quelqu'un, ben on n'a pas envie que cette nouvelle circule partout. C'est pourquoi il faut aussi faire preuve de discernement quand on choisit les personnes à qui on partage une difficulté. La confidentialité est nécessaire et bienveillante. Elle est d'ailleurs rappelée lors des réunions, par exemple la mère en prière, c'est dit à chaque fois, ainsi que dans les réunions du conseil d'église ou du conseil pastoral. Si vous me confiez quelque chose, mon mari ne le sait pas. Alors, après, dans l'église, on est très différents. Il y a des gens de toutes sortes, des arrière-plans sociaux, des passés différents, des cultures différentes. On n'a pas les mêmes sensibilités. Alors, notre sensibilité à l'égard de notre intimité peut aussi être très variable. Il y en a qui sont très vite froissés. Ah bah oui, on dit une chose toute banale sur eux, ça les froisse déjà. Et d'autres sont beaucoup plus relaxes. Donc, il faut faire preuve de prudence, de discernement dans les choses qu'on dit et qu'on répète. Parce que ce qui me paraît à moi logique et sans problème peut être interprété par l'autre comme une atteinte à son honneur. On passe à la dia suivante. Alors, il y a une autre façon de mentir. Et là, vous allez voir qu'on rentre aussi dans des domaines difficiles. Par exemple, pour protéger quelqu'un d'une mauvaise nouvelle. Je ne veux pas dire à ma grand-mère qui est en maison de retraite que son arrière-petit-fils vient d'avoir un accident, peut-être très grave. Voilà. On va vouloir protéger la personne. Mais quelquefois, la personne, elle découvre quand même la vérité, alors elle est fâchée. Elle dit « Mais vous auriez pu me le dire quand même !»« Ah oui, mais on ne voulait pas que tu fasses une crise cardiaque. » Vous voyez ? Après, il y a protéger la réputation d'une personne, l'image de ma famille ou de mon église. Et là, on parle de pieux mensonges. Et là, on peut se trouver en face de choix vraiment difficiles, lourds à porter. À qui faut-il révéler tel problème ? Comment le traiter ? Et on est placé devant la responsabilité de notre choix. Entre l'honnêteté et la protection de ceux qui ont fauté, le chemin est parfois étroit. Par exemple, quand une personne est placée sous discipline par les responsables de l'Église, ben, ce n'est pas forcément une bonne idée de demander pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait. À l'inverse, il y a des communautés qui vivent dans une négation de la réalité. Rien de mal ne peut se produire dans l'Église, puisqu'elle est parfaite. Donc les conflits sont interdits, la critique impossible, les questions éludées, le mal nié. Du genre, circuler, il n'y a rien à voir. L'impossibilité de conflits sains et constructifs dans un vrai dialogue peut mettre en péril la dynamique communautaire. Et là, je vous montre un livre. Voilà, c'est un livre qui a été écrit par Marie-Christine Carayol, je ne sais pas si vous connaissez, qui habite à Strasbourg, et qui fait beaucoup d'aide aux groupes, pour aider les groupes à trouver une bonne gestion des relations. Et ils ont fait tout un travail d'écriture, de partage avec un groupe de personnes qui avaient toutes vécu des grandes difficultés dans une église, hein, qui avaient été dans une église et qui avaient beaucoup souffert dans cette église par abus d'autorité, par se sentir rejeté ou des choses comme ça. Et donc le titre du livre, c'est « Rêve, désillusion, résilience ». La résilience, vous savez, c'est quand on revient. Donc la foi chrétienne au risque de l'église. Et là-dedans... des citations et des matières à réflexion. Et si quelqu'un, ça l'intéresse, je peux lui prêter le livre. Il est vraiment très, très, très parlant, quoi. Voilà. Voilà, donc là, par exemple, la dernière phrase que j'ai dite, c'était une citation du livre d'une Nicole Rothenbühler qui a écrit un livre qui s'appelle « Les violences subtiles hein ». Parce que sous l'apparence de la sainteté, de la perfection, il peut se cacher beaucoup de choses vraiment très moches. Bon là j'ai juste un exemple qui m'est venu que j'avais une fois entendu d'une église très jeune, très dynamique, c'est Hillsong là, où voilà tout va toujours bien, c'est grand sourire et tout. Et un jour un jeune de l'église découvre que son ami, il est proche de quelqu'un et il apprend que cet ami il est très malade et qu'il va mourir. Et donc il est mis au courant de l'enterrement, il va à l'enterrement. Et alors, donc il demande aux responsables de l'église, mais on va le dire à l'église. Et les responsables disent non, c'est pas la peine d'attrister les gens, quoi. On va pas le dire. Et donc, lui, il est allé à l'enterrement. Et effectivement, le couple responsable de l'église était là aussi, mais ils l'ont jamais dit au niveau de l'église, quoi. Et ils trouvaient ça dommage, quoi. C'est comme si la réalité n'avait pas le droit d'exister. Hein. Alors, dans ce livre, on cite aussi Dietrich Bonhoeffer, le fameux livre de Dietrich Bonhoeffer qui s'appelle « De la vie communautaire », dans lequel il met en opposition la communauté psychique. Alors, ça veut dire qu'il vit selon la chair, la communauté naturelle, on va dire, humaine, et la communauté pneumatique, donc de l'esprit, hein, donc communauté spirituelle qui vit selon l'esprit. Et dans la communauté psychique, sous couvert de service et de sainteté, hein, c'est le moi qu'on sert, les désirs opaques de l'âme humaine, le besoin de se mettre en avant. Et ce genre de communauté peut laisser des séquelles profondes chez les personnes qui y ont passé du temps et qui s'y sont senties écrasées, niées, voilà le livre là. Moi, j'ai moi-même passé quelques mois sous l'influence d'un groupe sectaire et j'ai vu, j'étais pas beaucoup en contact avec eux, mais ça suffit vraiment pour me mettre dans la dépression. C'était il y a longtemps. Hein. Voilà, donc pour dire que ça arrive, même dans certaines églises, sans que ça soit des sectes bizarres. Hein, voilà, c'est des églises qui parlent de Jésus, tout comme nous, mais où il y a des fonctionnements qui peuvent être malsains. Alors, au contraire, voilà, nous, on est arrivés dans l'église ici fin août 98, il y a 28 ans. Et on avait entendu dire avant que cette église avait eu des problèmes. Mais quand on est venu, on s'est senti bien accueillis. Et les gens ont eu l'humilité de ne pas nous cacher qu'un gros conflit avait secoué la communauté 2 ans plus tôt. Mais nous avons aussi été reconnaissants de ce que personne n'a essayé de nous attirer dans son point de vue, dans son camp. Hein. Personne n'a dit « oui, tu comprends le problème, c'était parce que les autres... » On n'a pas su en fait le problème. Et on a été protégés et on a pu nouer des liens sans a priori. Sans dire des choses, sans avoir des arrière-pensées avec les gens, puisqu'on ne connaissait pas l'histoire. Donc une sagesse collective s'est manifestée à ce moment-là, qui nous a permis de trouver une place dans l'Église. On passe à la dia suivante. Le deuxième sujet que Paul aborde juste après, c'est la colère. La colère, elle fait partie de nos vies. C'est une réaction tout à fait normale à un sentiment d'injustice, à une offense. Elle a un besoin légitime d'être entendue, sinon elle nous détruit. Donc, Paul nous exhorte à ne pas la laisser s'installer. Alors là aussi, l'écoute d'un frère ou d'une sœur peut nous faire du bien, même s'il n'a pas forcément le pouvoir de réparer l'injustice qui nous accable. Et quand c'est quelqu'un de l'Église qui me met en colère par son attitude, ben Paul nous exhorte au pardon, à faire grâce à l'autre. Mais ça ne signifie pas que je n'ai pas le droit de dire ce qui ne va pas. Hein. L'autre, il n'a sûrement pas de mauvaises intentions envers moi. C'est encore une fois une différence de sensibilité, de compréhension des choses. Et parfois, il faut du courage pour aller trouver quelqu'un, pour lui dire qu'on s'est senti blessé. Mais c'est une démarche très salutaire. Ça nous apaise et ça permet à l'autre de se remettre en question, de se corriger. On peut avoir cette démarche même vis-à-vis d'un responsable de l'Église. Ce n'est pas parce que c'est un responsable de l'Église que ça y est, c'est un saint et qu'il est intouchable. On peut aller voir les gens et leur dire, bah, tu vois là, je trouve que tu n'as pas raison, ou là ça m'a blessé, ou etc. Moi-même, j'ai été parfois remise en place par des sœurs qui me relevaient un point de mon caractère qui les avait dérangées. Et ça m'a aidée à progresser dans mes relations. Mais parfois, cette démarche de dialogue, elle n'aboutit pas. On n'est pas reçu, pas compris. L'autre ne comprend pas notre problème. Il ne voit pas du tout les choses de la même manière. Il se sent parfois lui-même agressé par notre attitude ou nos propos. Alors ça peut être compliqué. Et parfois, une médiation peut être envisagée. Et parfois, même ça, ça ne marche pas. Alors, il n'y a qu'à continuer à prier, espérer que les uns et les autres évoluent et grandissent en maturité pour réussir un jour à se comprendre. Au verset 31, Paul parle d'une autre sorte de colère. Il fait une sorte de gradation dans les mauvaises dispositions du cœur qu'il nous exhorte à supprimer de nos vies. Ça commence par l'amertume, c'est-à-dire les pensées négatives que l'on ressasse. Et l'amertume, c'est ce qui arrive quand on ne traite pas la colère. Une colère juste, si on n'en fait pas quelque chose, ça se transforme en amertume, en quelque chose qui pourrit à l'intérieur et qui va tourner et qui va produire alors qu'on va devenir irritable, grognon. Puis on réagit avec colère, le ton monte et ça se termine avec les gros mots. Donc dans la traduction que j'ai lue, là, il y avait un certain nombre de mots. Bon, il faut que je trouve. Voilà, là, il y avait amertume, fureur, colère, éclat de voix, calomnie. Dans ma traduction, dans une autre traduction, il y avait amertume, irritation, colère, éclat de voix, et puis insulte. Voilà. Donc c'est fort, quoi. Hein. Et donc quand là il est question de cette colère-là, ben, c'est la colère qui veut vraiment faire du mal, qui veut vraiment détruire, qui veut vraiment se venger, etc. Donc ça, non, quoi. Autant la colère, comme je disais, c'est un signal, quelque chose ne va pas, il faut que j'en fasse quelque chose, autant la sortir comme ça sur les autres en pétant un câble, ben non, quoi, ça se fait pas non plus, ça. Donc si nous constatons ce genre de fonctionnement chez nous, allons regarder de plus près la cause de notre amertume, de cette colère qui couve en nous et nous amène à des crises que nous regrettons ensuite. Voilà, donc conclusion. Si quelque chose vous dérange beaucoup dans ce qui se passe à l'Église, il vaut mieux le dire aux gens concernés ou bien aux responsables plutôt que de grogner intérieurement ou de critiquer à quelques-uns. Et donc, l'autre avant, c'était bon. Je voulais citer les deux versets là. Donc le verset 29 nous disait « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche ». Et déjà David, au psaume 141, verset 3, écrivait « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et dans le chapitre 3 de l'épître de Jacques, le verset 2 nous dit « Nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » Voilà, donc les paroles, c'est un domaine où on a beaucoup de boulot. Voilà, c'est vraiment un domaine où on peut bénir les autres, on peut vraiment faire du bien aux autres et on peut aussi faire beaucoup de mal. Alors, diapositive suivante. On raconte une histoire sur le philosophe antique Socrate qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Un jour, un de ses amis vient le trouver et lui dit « J'ai quelque chose à te dire au sujet d'un de tes amis. Attends un peu, avant de me partager quoi que ce soit au sujet de mon ami, fais passer tes paroles dans ces trois filtres. Le premier filtre est celui de la vérité. Es-tu certain que ce que tu as à me dire soit vrai ?»« Non, pas vraiment, c'est juste quelque chose que j'ai entendu dire, je me suis dit, bon, donc, tu n'es pas certain que ce soit vrai. » Voyons le second filtre, celui du bien. « Est-ce une bonne chose que tu veux me partager au sujet de mon ami ?»« Non, ça serait plutôt le contraire. Bon, alors si ce n'est ni vrai ni bon, passons là au troisième filtre, celui de l'utilité. Est-ce qu'il me sera utile d'écouter ce que tu veux me dire ? Non, pas vraiment, non. Donc, si cette chose n'est ni vraie, ni bonne, ni utile, pourquoi alors veux-tu que je l'écoute ? Quelle sagesse, hein ? Et ça fait écho au verset 9 là, de notre texte, dans le chapitre 5, qui dit « Le fruit de l'esprit consiste en effet en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discerner ce qui est agréable au Seigneur. » Voilà. Alors, en conclusion, la suivante. Notre boussole dans toutes nos relations, c'est l'amour que Dieu nous a montré, qui nous a sauvés quand nous ne le méritions pas. Et nous ne le méritons d'ailleurs toujours pas. C'est lui le garant de notre salut et aussi de notre transformation progressive à son image. Il y travaille sans cesse, mais il a besoin de notre collaboration. Alors voilà une petite série de questions que je peux me poser pour évaluer les domaines où j'ai besoin de progresser en ce qui concerne l'amour fraternel. Donc la première question, elle n'est pas dessus parce que je l'ai réfléchi ce matin. Est-ce que je laisse Dieu examiner mes motivations ? Parce qu'en fait, toutes nos paroles, elles partent du cœur. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui me pousse là ? Donc, quelles sont mes motivations ? Est-ce que j'ai la foi pour croire que je peux encore changer ? Ou bien est-ce que je pense, de toute façon, je suis comme ça, il faut que les autres fassent avec, je ne changerai plus, je suis trop vieux, ou j'y peux rien, c'est comme ça. Pour justifier mon mauvais caractère ou mes mauvais penchants ? Est-ce que je me laisse dire les autres par les autres ? Est-ce que je me laisse dire les choses par les autres ? Est-ce que je me laisse enseigner ? Est-ce que je me remettre en question ? Est-ce que je fais attention à ce que je dis, à qui je le dis, à la manière dont je le dis ? Donc il y a le contenu, puis il y a le ton aussi, le ton qu'on prend pour parler aux gens, etc. Est-ce que j'ai tendance à juger les autres, à parler d'eux en leur absence ? Et enfin, je pense qu'une question très importante, est-ce que j'ai au moins une personne de confiance avec qui parler de ce que j'ai vraiment sur le cœur, où je ne me sens pas jugée, où je me sens en sécurité et je peux dire ce que j'ai à dire. Dieu, il nous fait grâce. Ah oui, je vais vous citer un petit deux lignes là de Bonhoeffer. Voilà. Donc Dietrich Bonhoeffer, il a beaucoup réfléchi hein, sur la vie communautaire. L'amour chrétien voit le prochain sous la croix et voit donc avec clarté. Si lorsque nous jugeons les autres, notre véritable objectif était de détruire le mal, nous devrions chercher le mal là où il est certain de le trouver, c'est-à-dire dans notre propre cœur. Nous avons désespérément besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu nous fait grâce. Alors faisons grâce aux autres. Abstenons-nous des regards sévères, des jugements rapides, des ragots inutiles. Apprenons à prendre la parole de manière juste, significative, équilibrée. Apprenons à passer par-dessus les petits accrocs inévitables dans les relations humaines. Acceptons de ne pas tout comprendre dans le fonctionnement ou la logique de l'autre. Acceptons aussi de ne pas toujours être compris nous-mêmes et parfois de ne pas même nous comprendre nous-mêmes. Faisons confiance à Dieu qui nous emmène ensemble. La dernière diapo, s'il te plaît. Voilà. Il nous emmène ensemble jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et alors, le vélo de la communauté va pouvoir bien avancer. Je vous propose de finir par la prière. Seigneur Père, on veut vraiment te louer parce que tu as tout fait, tu as tout mis en place pour nous sauver, pour nous mettre à notre disposition ton Saint-Esprit qui veut faire cette œuvre en nous, cette œuvre de transformation. Et je te prie vraiment, Seigneur, de nous conduire, de nous donner le désir de te suivre, le désir de nous laisser transformer par toi, le désir de te refléter dans nos relations les uns avec les autres. Et merci parce que tu vois nos misères, tu vois les choses qui ne vont pas, tu vois les secrets qu'on porte et qu'on aurait besoin de partager. Merci Seigneur de nous montrer à qui aller en parler et comment progresser dans ces problèmes. Merci Père pour ton regard d'amour, pour ta patience envers nous et pour les merveilles que tu vas nous donner de voir encore. Amen. Je voulais